on va continuer et finir avec Martine Bullard. On dit toujours qu'on parle pas assez de l'Extrême-Orient dans le monde diplomatique. Et ben là, on est servi pendant toutes ces semaines dernières. Martine Bullard était en Chine et a arpenté la Chine en tous sens pour nous.
En tous sens, n'exagérons rien. Mais en tout cas, est allée sur une partie de la côte Est, mais notamment près de la frontière de la Corée du Nord. Là où il y avait une grande région industrielle jusqu'aux années 80, hein, 70-80, et qui a été littéralement sinistrée avec les réformes économiques. C'est en gros la sidérurgie en France, hein, vous rappelez la sidérurgie lorraine dans les années 80. Là, on parle d'une sidérurgie puissance 10, tellement il y a eu d'entreprises fermées, de laissées à l'abandon, d'ouvriers licenciés, de familles entières complètement à la dérive. Alors, dans un pays qui connaît une très forte croissance. Hein. Vous le savez, il y a quelques jours, il y a eu une révision des chiffres de la croissance de la Chine, puisqu'ils ont... vont frôler entre les 16-19%, dit-on même. En tout cas, ils passent au quatrième rang mondial, derrière les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, en sachant quand même, parce qu'il faut toujours relativiser ces choses-là, il faut savoir que la croissance chinoise est moitié moindre que la croissance japonaise. Et que si elle est au quatrième rang mondial du point de vue global, quand on prend par habitant, elle est au 96e rang mondial. Donc faut toujours un peu relativiser, parce que quand on parle de la Chine, on est toujours dans des fantasmes absolus. Et puis ce sont des taux de croissance qui sont propres aux pays en décollage. Par exemple, le Japon, il faut savoir, a eu 14% de croissance en moyenne pendant 25 ans jusqu'au début des années 80. La Corée du Sud par exemple a eu des taux de croissance de 16% pendant 25 ans. Donc une forte croissance en Chine, naturellement, ça prend.
Et puis la croissance n'est pas forcément synonyme du bonheur des citoyens.
C'est naturellement la deuxième question. En même temps, là-dessus, je suis très nuancé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a vu son niveau de vie, son mode de vie complètement déstructuré par les réformes économiques. C'est notamment une grande partie de la classe ouvrière traditionnelle. Eux, ils étaient, vous savez, en Chine, on entrait dans l'entreprise à 14, 16 ou 20 ans, selon les études qu'on avait fait, et on n'en sortait plus. C'est-à-dire que, au pire, on allait dans une autre entreprise d'État, mais tout était pris en charge, la santé, l'éducation des enfants, le sport, les vacances, les enterrements, bref, tout était pris en compte par l'entreprise. Évidemment, ces ouvriers se sont retrouvés licenciés. Alors, avec un système, pour vous dire un peu comment la Chine vivait jusqu'au début des années 80, on appelait ça, ils n'ont pas été licenciés au début, on les appelait les xiagang, c'est-à-dire ils étaient en retrait de l'entreprise. C'est absolument merveilleux, c'est-à-dire qu'ils gardaient un lien avec l'entreprise, mais ils ne travaillaient plus. Ils n'avaient plus de salaire, hein, grosso modo, ils avaient une petite indemnité, mais ils gardaient quand même un lien avec l'entreprise, ce qui veut dire... bon, pour partie la santé au démarrage et pour partie la considération. Il faut savoir que c'est un pays qui valorisait et les paysans et la classe ouvrière. Donc cette classe ouvrière-là, tout d'un coup, s'est retrouvée d'abord un peu hors d'entreprise, même si elle gardait un lien, et puis tout d'un coup, puisqu'il y a eu les privatisations, et l'État et les actionnaires privés n'ont plus voulu payer pour des gens qui n'étaient plus productifs. Donc, on est passé d'un système donc de retrait de l'entreprise à un système de licenciement pur et simple, avec des gens sans couverture sociale, sans considération du tout dans leur environnement, quelquefois sans logement.
Et par dizaines de millions.
Et par dizaines de millions, hein, il y a eu 20 millions de personnes qui ont été évacuées comme ça. En revanche, une autre partie de la population vit mieux. La partie de la population qui est restée dans les entreprises vit quand même globalement mieux parce que on a accès à des produits auxquels on n'avait pas accès avant. Il y a même formation, on pourrait dire, des couches moyennes, c'est-à-dire des petits employés, des cadres, des gens qui tout d'un coup ont une perspective d'emploi rémunéré et de consommation possible. Même si tout est centré, enfin beaucoup est centré sur la consommation, il n'y a pas de recherche d'autre chose que de consommer. Et on reste un peu aveugle sur les petites mains, sur des entreprises qui vivent dans des conditions épouvantables, et on reste aveugle sur les gens qui vivent de plus en plus mal. Je crois que le grand ciment qui fait que pour l'instant ça n'explose pas, c'est que une grande partie de la population, y compris les paysans pauvres qui vivent dans des conditions difficiles, pensent que leurs enfants ou leurs enfants, parce qu'à la campagne ils ont le droit d'en avoir deux, vont vivre beaucoup mieux qu'eux-mêmes vivent. Et ça, je pense que c'est un peu comme la France dans les années 30 ou dans les années 50, plutôt, dans les années 50, à l'endemain de la guerre. L'impression que si notre enfant peut aller à l'école, ce qui quand même est à la campagne quelque chose de quelquefois difficile, parce que les crédits dans certaines régions ont été réduits, mais si l'enfant va à l'école, il y a l'idée qu'on pourra vivre mieux.